Honoré de Balzac, Illusion perdue. 16. Par une assez froide matinée du mois de septembre, il descendit la rue de la Harpe, ses deux manuscrits sous le bras. Il chemina jusqu'au quai des Augustins, se promena le long du trottoir en regardant alternativement l'eau de la Seine et les boutiques des libraires, comme si un bon génie lui conseillait de se jeter à l'eau plutôt que de se jeter dans la littérature. Après des hésitations poignantes, après un examen approfondi des figures plus ou moins tendres, récréatives, refrognées, joyeuses ou tristes, qu'il observait à travers les vitres ou sur le seuil des portes, il avisa une maison devant laquelle des commis empressés emballaient des livres. Il s'y faisait des expéditions. Les murs étaient couverts d'affiches. En vente, Le Solitaire, de M. le Vicomte d'Arlincourt, 3e édition. Léonide, par Victor Ducange, 5 volumes in 12 imprimés sur papier fin. Prix 12 francs. Induction morale par Kératry. Ils sont heureux, ceux-là, se disait Lucien. L'affiche, création neuve et originale du fameux L'Advocat, florissait alors pour la première fois sur les murs. Paris fut bientôt bariolé par les imitateurs de ce procédé d'annonce, la source d'un des revenus publics. Enfin, le cœur gonflé de sang et d'inquiétude, Lucien, si grand naguère à Angoulême et à Paris si petit, se coula le long des maisons et rassembla son courage pour entrer dans cette boutique encombrée de commis, de chalands et de libraires. « Et peut-être d'auteurs, » pensa Lucien. « Je voudrais parler à M. Vidal ou à M. Porchon, » dit-il à un commis. Il avait lu sur l'enseigne, en grosses lettres, « Vidal et Porchon, libraires commissionnaires pour la France et l'étranger. »« Ces messieurs sont tous deux en affaires, » lui répondit un commis affairé. « J'attendrai. » On le laissa dans la boutique où il examina les ballots. Il resta 2 heures, occupé à regarder les titres, à ouvrir les livres, à lire des pages ça et là. Lucien finit par s'appuyer l'épaule à un vitrage garni de petits rideaux verts, derrière lequel il soupçonna que se tenait ou Vidal ou Porchon, et il entendit la conversation suivante. « Voulez-vous m'en prendre 500 exemplaires? Je vous les passe alors à 5 francs et vous donne double 13e. À quel prix ça les mettrait-il ?
À 16 sous de moins.
4 francs 4 sous. Dit Vidal ou Porchon, à celui qui offrait ses livres.
« Oui, » répondit le vendeur.
« En compte ?» demanda l'acheteur.
« Un vieux farceur. Et vous me régleriez dans 18 mois, en billets à 1 an ?»«
Non, réglé immédiatement, » répondit Vidal ou Porchon.
« À quel terme ? 9 mois ?»
demanda le libraire ou l'auteur, qui offrait sans doute un livre.
« Non, mon cher, à 1 an. » répondit l'un des deux libraires commissionnaires.
Il y eut un moment de silence.
« Vous m'égorgez !» s'écria l'inconnu.
« Mais aurons-nous placé dans 1 an 500 exemplaires de Léonide ?» répondit le libraire commissionnaire à l'éditeur de Victor Ducange.
« Si les livres allaient au gré des éditeurs, nous serions millionnaires, mon cher maître. Mais ils vont au gré du public. On donne les romans de Walter Scott à 18 sous le volume, 3 livres, 12 sous l'exemplaire. Et vous voulez que je vende vos bouquins plus cher? Si vous voulez que je vous pousse ce roman-là, faites-moi des avantages. »
Vidal.
Un gros homme quitta la caisse et vint, une plume passée entre son oreille et sa tête.
« Dans ton dernier voyage, combien as-tu placé de Ducange ? » lui demanda Porchon.
« J'ai fait 200 petits vieillards de Calais. » Mais il a fallu, pour les placer, déprécier 2 autres ouvrages sur lesquels on ne nous faisait pas de si fortes remises et qui sont devenus de fort jolis rossignols. » Plus tard, Lucien apprit que ce sobriquet de rossignol était donné par les libraires aux ouvrages qui restent perchés sur les casiers dans les profondes solitudes de leurs magasins.
« Tu sais d'ailleurs, » reprit Vidal, « que Picard prépare des romans. On nous promet 20% de remise sur le prix ordinaire de librairie, afin d'organiser un succès. »
« Eh bien, à un an, » répondit piteusement l'éditeur, foudroyé par la dernière observation confidentielle de Vidal à Porchon.
« Est-ce dit ?» demanda nettement Porchon à l'inconnu.
« Oui. » Le libraire sortit. Lucien entendit Porchon disant à Vidal « Nous en avons 300 exemplaires de demandés. Nous lui allongerons son règlement. Nous vendrons les Léonides 100 sous à l'unité. Nous nous les ferons régler à 6 mois et... »
« Et, » dit Vidal, « voilà 1500 francs de gagné. »
« Oh, j'ai bien vu qu'il était gêné. »
« Il s'enfonce. Il paie 4000 francs à Ducange pour 2000 exemplaires. »
Lucien arrêta Vidal en bouchant la petite porte de cette cage.
« Messieurs, » dit-il aux deux associés, « j'ai l'honneur de vous saluer. »
Les libraires le saluèrent à peine.
« Je suis auteur d'un roman sur l'histoire de France, à la manière de Walter Scott, et qui a pour titre « L'archer de Charles IX ». Je vous propose d'en faire l'acquisition. »
Porchon jeta sur Lucien un regard sans chaleur, en posant sa plume sur son pupitre. Vidal, lui, regarda l'auteur d'un air brutal, et lui répondit
« Monsieur, nous ne sommes pas libraires-éditeurs, nous sommes libraires-commissionnaires. Quand nous faisons des livres pour notre compte, ils constituent des opérations que nous entreprenons alors avec des noms faits. Nous n'achetons d'ailleurs que des livres sérieux, des histoires, des résumés.
Mais mon livre est très sérieux. Il s'agit de peindre sous son vrai jour la lutte des catholiques qui tenaient pour le gouvernement absolu et des protestants qui voulaient établir la République.
« Monsieur Vidal !» cria un commis.
Vidal s'esquiva.
« Je ne vous dis pas, monsieur, que votre livre ne soit pas un chef-d'œuvre, » reprit Porchon en faisant un geste assez impoli.
« Mais nous ne nous occupons que des livres fabriqués.
Allez voir ceux qui achètent des manuscrits. Le père Doguereau, rue du Coq, auprès du Louvre. Il est un de ceux qui font le roman. Si vous aviez parlé plus tôt, vous venez de voir Paulé, le concurrent de Doguereau, et des libraires des galeries de bois.
Monsieur, j'ai un recueil de poésie.
Monsieur Porchon, cria-t-on.
De la poésie, s'écria Porchon en colère.
Et pour qui me prenez-vous?
Ajouta-t-il en lui riant au nez et disparaissant dans son arrière-boutique. Lucien traversa le pont neuf en proie à 1000 réflexions. Ce qu'il avait compris de cet argot commercial lui fit deviner que, pour ses libraires, les livres étaient comme des bonnets de coton pour des bonnetiers, une marchandise à vendre cher, à acheter bon marché.
« Je me suis trompé, » se dit-il, frappé néanmoins du brutal et matériel aspect que prenait la littérature.
Il avisa rue du Coq une boutique modeste, devant laquelle il avait déjà passé, sur laquelle était peint en lettres jaunes, sur un fond vert, ces mots « Doguereau, libraire ». Il se souvint d'avoir vu ces mots répétés au bas du frontispice de plusieurs des romans qu'il avait lus au cabinet littéraire de Bloss. Il entra, non sans cette trépidation intérieure que cause à tous les hommes d'imagination la certitude d'une lutte. Il trouva dans la boutique un singulier vieillard, l'une des figures originales de la librairie sous l'Empire. Doguereau portait un habit noir à grandes basques carrées, et la mode taillait alors les fracs en queue de morue. Il avait un gilet d'étoffe commune, à carreaux de diverses couleurs, d'où pendait, à l'endroit du gousset, une chaîne d'acier et une clé de cuivre qui jouait sur une vaste culotte noire. La montre devait avoir la grosseur d'un oignon. Ce costume était complété par des bas drapés, couleur gris de fer et par des souliers ornés de boucles en argent. Le vieillard avait la tête nue, décoré de cheveux grisonnants et assez poétiquement épars. Le père Doguereau, comme l'avait surnommé Porchon, tenait par l'habit, par la culotte et par les souliers, au professeur de belles-lettres et au marchand, par le gilet, la montre et les bas. Sa physionomie ne démentait point cette singulière alliance. Il avait l'air magistral, dogmatique, la figure creusée du maître de rhétorique, et les yeux vifs, la bouche soupçonneuse, l'inquiétude vague du libraire.
« Monsieur Doguereau, » dit Lucien.
« C'est moi, monsieur. »«
Je suis auteur d'un roman, » dit Lucien.
« Vous êtes bien jeune, » dit le libraire.
« Mais, monsieur, mon âge ne fait rien à l'affaire. »«
C'est juste, » dit le vieux libraire en prenant le manuscrit.
« Ah, diantre, l'archer de Charles IX !»«
Un bon titre. Voyons, jeune homme, dites-moi votre sujet en deux mots. »«
Monsieur, c'est une œuvre historique dans le genre de Walter Scott,
où le caractère de la lutte entre les protestants et les catholiques est présenté comme un combat entre deux systèmes de gouvernement et où le trône était sérieusement menacé. J'ai pris parti pour les catholiques.
Mais, jeune homme, voilà des idées.
Eh bien, je lirai votre ouvrage, je vous le promets.
J'aurais mieux aimé un roman dans le genre de Madame Radcliffe, mais si vous êtes travailleur, si vous avez un peu de style, de la conception, des idées, l'art de la mise en scène, je ne demande pas mieux que de vous être utile.
Que nous faut-il ?
De bons manuscrits.
Quand pourrais-je venir ?
Je vais ce soir à la campagne. Je serai de retour après-demain. J'aurai lu votre ouvrage, et s'il me va, nous pourrons traiter le jour même. »
Lucien, le voyant si bonhomme, eut la fatale idée de sortir le manuscrit des Marguerites.
« Monsieur, j'ai fait aussi un recueil de vers. »«
Ah, vous êtes poète. Je ne veux plus de votre roman, » dit le vieillard en lui tendant le manuscrit.
Les rimailleurs échouent quand ils veulent faire de la prose.
En prose, il n'y a pas de cheville. Il faut absolument dire quelque chose.
Mais, monsieur, Walter Scott a fait des vers aussi.
C'est vrai,
dit Doguereau, qui se radoucit, devina la pénurie du jeune homme et garda le manuscrit.
Où demeurez-vous?
J'irai vous voir.
Lucien donna son adresse, sans soupçonner chez ce vieillard la moindre arrière-pensée. Il ne reconnaissait pas en lui le libraire de la vieille école, un homme du temps où les libraires souhaitaient tenir dans un grenier et sous clé, Voltaire et Montesquieu mourant de faim.
« Je reviens précisément par le quartier latin, » lui dit le vieux libraire après avoir lu l'adresse.
« Le brave homme, » pensa Lucien en saluant le libraire. « J'ai donc rencontré un ami de la jeunesse, un connaisseur, qui sait quelque chose.
Ah, parlez-moi de celui-là. Je le disais bien à David. Le talent parvient facilement à Paris. »
Lucien revint, heureux et léger. Il rêvait la gloire. Sans plus songer aux sinistres paroles qui venaient de frapper son oreille dans le comptoir de Vidal et Porchon, il se voyait riche d'au moins 1200 francs. 1200 francs, représentait une année de séjour à Paris, une année pendant laquelle il préparerait de nouveaux ouvrages. Combien de projets bâtis sur cette espérance, combien de douces rêveries en voyant sa vie assise sur le travail. Il se casa, s'arrangea, peu s'en fallut qu'il ne fît quelques acquisitions. Il ne trompa son impatience que par des lectures constantes au cabinet de Bloss. Deux jours après, le vieux Doguereau, surpris du style que Lucien avait dépensé dans sa première œuvre, enchanté de l'exagération des caractères qu'admettait l'époque où se développait le drame, frappé de la fougue d'imagination avec laquelle un jeune auteur dessine toujours son premier plan, il n'était pas gâté, le père Doguereau. Vint à l'hôtel où demeurait son Walter Scott en herbe. Il était décidé à payer 1000 francs la propriété entière de l'archer de Charles IX et à lier Lucien par un traité pour plusieurs ouvrages. En voyant l'hôtel,
Le vieux renard se ravisa.
Un jeune homme logé là n'a que des goûts modestes. Il aime l'étude, le travail. Je peux ne lui donner que 800 francs.
L'hôtesse, à laquelle il demanda M. Lucien de Rubempré, lui répondit « Au quatrième !» Le libraire leva les yeux et n'aperçut que le ciel au-dessus du quatrième.
« Ce jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon. Il est même très beau. S'il gagnait trop d'argent, il se dissiperait. Il ne travaillerait plus. Dans notre intérêt commun, je lui offrirais 600 francs. Mais en argent, pas de billets. »
Il monta l'escalier, frappa 3 coups à la porte de Lucien, qui vint ouvrir. La chambre était d'une nudité désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une flûte de 2 sous. Ce dénûment du génie frappa le bonhomme d'Augereau.
Qu'il conserve, pensa-t-il, ses mœurs simples, cette frugalité, ses modestes besoins.
J'éprouve du plaisir à vous voir, dit-il à Lucien.
Voilà, monsieur, comment vivait Jean-Jacques, avec lequel vous aurez plus d'un rapport. Dans ces logements-ci brille le feu du génie et se composent les bons ouvrages. Voilà comment devraient vivre les gens de lettres, au lieu de faire ripaille dans les cafés, dans les restaurants, d'y perdre leur temps, leur talent et notre argent.
Il s'assit.
Jeune homme, votre roman n'est pas mal. J'ai été professeur de rhétorique. Je connais l'histoire de France. Il y a d'excellentes choses. Enfin, vous avez de l'avenir.
Ah, monsieur, non, je vous le dis, nous pouvons faire des affaires ensemble.
Je vous achète votre roman.
Le cœur de Lucien s'épanouit. Il palpitait d'aise. Il allait entrer dans le monde littéraire. Il serait enfin imprimé.
Je vous l'achète 400 francs, dit Augereau d'un ton mielleux et en regardant Lucien d'un air qui semblait annoncer un effort de générosité.
« Le volume ?» dit Lucien.
« Le roman ?» dit Augereau, sans s'étonner de la surprise de Lucien.
« Mais, ajouta-t-il, ce sera comptant. Vous vous engagerez à m'en faire 2 par an pendant 6 ans.
Si le premier s'épuise en 6 mois, je vous paierai les suivants 600 francs.
Ainsi, à 2 par an, vous aurez 100 francs par mois. Vous aurez votre vie assurée. Vous serez heureux.
J'ai des auteurs que je ne paie que 300 francs par roman. Je donne 200 francs pour une traduction de l'anglais.
Autrefois, ce prix eût été exorbitant.
Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre. Je vous prie de me rendre mon manuscrit, dit Lucien glacé.
Le voilà, dit le vieux libraire.
« Vous ne connaissez pas les affaires, monsieur. En publiant le premier roman d'un auteur, un éditeur doit risquer 1600 francs d'impression et de papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme.
J'ai 100 manuscrits de romans chez moi
et n'ai pas 160 000 francs dans ma caisse.
Hélas, je n'ai pas gagné cette somme depuis 20 ans que je suis libraire.
On ne fait donc pas fortune au métier d'imprimer des romans.
Vidal et Porchon ne nous les prennent qu'à des conditions qui deviennent de jour en jour plus onéreuses pour nous.
Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser 2000 francs. Si nous sommes trompés, car habent sua fatalibelli, je perds 2000 francs. Quant à vous, vous n'avez qu'à lancer une ode contre la stupidité publique.
Après avoir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me revoir.
Vous reviendrez à moi, répéta le libraire avec autorité pour répondre à un geste plein de superbe que Lucien laissa échapper.
Loin de trouver un libraire qui veuille risquer 2000 francs pour un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un commis qui se donne la peine de lire votre griffonnage.
Moi, qui l'ai lu, je puis vous y signaler plusieurs fautes de français. Vous avez mis « observer » pour faire observer, et malgré que un régime direct.
Lucien parut humilié.
« Quand je vous reverrai, vous aurez perdu 100 francs, ajouta-t-il. « Je ne vous donnerai plus alors que 100 écus. »
Il se leva, salua, mais sur le pas de la porte, il dit « Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles conditions. 100 francs par mois, songez-y. Après tout, un roman dans un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l'écurie, ça ne mange pas de pain. À la vérité, ça n'en donne pas non plus. »
Lucien prit son manuscrit, le jeta par terre en s'écriant « J'aime mieux le brûler, monsieur. »«
Ah, vous avez une tête de poète, » dit le vieillard.
Lucien dévora sa flûte, lapa son lait et descendit. Sa chambre n'était pas assez vaste. Il y aurait tourné sur lui-même comme un lion dans sa cage au jardin des plantes. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, où Lucien comptait aller, il avait toujours aperçu dans le même coin un jeune homme d'environ 25 ans qui travaillait avec cette application soutenue que rien ne distrait ni dérange, et à laquelle se reconnaissent les véritables ouvriers littéraires. Ce jeune homme y venait sans doute depuis longtemps. Les employés et le bibliothécaire lui-même avaient pour lui des complaisances. Le bibliothécaire lui laissait emporter des livres que Lucien voyait rapporter le lendemain par le studieux inconnu, dans lequel le poète reconnaissait un frère de misère et d'espérance. Petit, maigre et pâle, ce travailleur cachait un beau front sous une épaisse chevelure noire assez mal tenue. Il avait de belles mains. Il attirait le regard des indifférents par une vague ressemblance avec le portrait de Bonaparte gravé d'après Robert Lefebvre. Cette gravure est tout un poème de mélancolie ardente, d'ambition contenue, d'activité cachée. Examinez-la bien. Vous y trouverez du génie et de la discrétion, de la finesse et de la grandeur. Les yeux ont de l'esprit comme des yeux de femme. Le coup d'œil est avide de l'espace et désireux de difficultés à vaincre. Le nom de Bonaparte ne serait pas écrit au-dessous, vous le contempleriez tout aussi longtemps. » Le jeune homme qui réalisait cette gravure avait ordinairement un pantalon à pied dans des souliers à grosses semelles, une redingote de drap commun, une cravate noire, un gilet de drap gris mélangé de blanc, boutonné jusqu'en haut, et un chapeau à bon marché. Son dédain pour toute toilette inutile était visible. Ce mystérieux inconnu, marqué du sceau que le génie imprime au front de ses esclaves, Lucien le retrouvait chez Flicoteau, le plus régulier de tous les habitués. Il y mangeait pour vivre, sans faire attention à des aliments avec lesquels il paraissait familiarisé. Il buvait de l'eau. Soit à la bibliothèque, soit chez Flicoteau, il déployait en tout une sorte de dignité qui venait sans doute de la conscience d'une vie occupée par quelque chose de grand et qui le rendait inabordable. Son regard était penseur. La méditation habitait sur ce beau front noblement coupé. Ses yeux noirs et vifs, qui voyaient bien et promptement, annonçaient une habitude d'aller au fond des choses. Simple en ses gestes, il avait une contenance grave. Lucien éprouvait un respect involontaire pour lui. Déjà plusieurs fois, l'un et l'autre, ils s'étaient mutuellement regardés comme pour se parler à l'entrée ou à la sortie de la bibliothèque ou du restaurant. Mais ni l'un ni l'autre, ils n'avaient osé. Ce silencieux jeune homme allait au fond de la salle, dans la partie située en retour, sur la place de la Sorbonne. Lucien n'avait donc pu se lier avec lui, quoiqu'il se sentît porté vers ce jeune travailleur en qui se trahissaient les indicibles symptômes de la supériorité. L'un et l'autre, ainsi qu'ils le reconnurent plus tard, ils étaient deux natures vierges et timides, adonnées à toutes les peurs dont les émotions plaisent aux hommes solitaires. sans leur subite rencontre, au moment du désastre qui venait d'arriver à Lucien, peut-être ne se serait-il jamais mis en communication. Mais, en entrant dans la rue des Grès, Lucien aperçut le jeune inconnu qui revenait de Sainte-Geneviève. « La bibliothèque est fermée. Je ne sais pourquoi, monsieur, » lui dit-il. En ce moment, Lucien avait des larmes dans les yeux. Il remercia l'inconnu par un de ces gestes qui sont plus éloquents que le discours et qui, de jeune homme à jeune homme, ouvrent aussitôt les cœurs. Tous deux descendirent la rue des Grès en se dirigeant vers la rue de l'Harpe. « Je vais alors me promener au Luxembourg, » dit Lucien. « Quand on est sorti, il est difficile de revenir travailler. » « On n'est plus dans le courant d'idées nécessaires, » reprit l'inconnu. « Vous paraissez chagrin, monsieur. Hein, »« Il vient de m'arriver une singulière aventure, » dit Lucien. Il raconta sa visite sur le quai, puis celle au vieux libraire et les propositions qu'il venait de recevoir. Il se nomma et dit quelques mots de sa situation. Depuis un mois environ, il avait dépensé 60 francs pour vivre, 30 francs à l'hôtel, 20 francs au spectacle, 10 francs au cabinet littéraire, en tout 120 francs. Il ne lui restait plus que 120 francs. « Monsieur, lui dit l'inconnu, votre histoire est la mienne, et celle de 1 000 à 1 200 jeunes gens qui, tous les ans, viennent de la province à Paris. Nous ne sommes pas encore les plus malheureux. « Voyez-vous ce théâtre ? » dit-il en lui montrant les cimes de l'Odéon. Un jour vint se loger, dans une des maisons qui sont sur la place, un homme de talent qui avait roulé dans des abîmes de misère. Marié, surcroît de malheur, qui ne nous afflige encore ni l'un ni l'autre, à une femme qu'il aimait, pauvre ou riche, comme vous voudrez, de 2 enfants, criblé de dettes, mais confiant dans sa plume. Il présente à l'Odéon une comédie en 5 actes. Elle est reçue, elle obtient un tour de faveur, les comédiens la répètent et le directeur active les répétitions. Ces 5 bonheurs constituent 5 drames encore plus difficiles à réaliser que 5 actes à écrire. Le pauvre auteur, logé dans un grenier que vous pouvez voir d'ici, épuise ses dernières ressources pour vivre pendant la mise en scène de sa pièce. Sa femme met ses vêtements au Mont-de-Piété, la famille ne mange que du pain. Le jour de la dernière répétition, la veille de la représentation, le ménage devait 50 francs dans le quartier, au boulanger, à la laitière, au portier. Le poète avait conservé le strict nécessaire, un habit, une chemise, un pantalon, un gilet et des bottes. Sûr du succès, il vient embrasser sa femme. Il lui annonce la fin de leurs infortunes. « Enfin, il n'y a plus rien contre nous » s'écrie-t-il. « Il y a le feu, » dit la femme. « Regarde, l'Odéon brûle. » Monsieur, l'Odéon brûlait. « Ne vous plaignez donc pas. Vous avez des vêtements. Vous n'avez ni femme ni enfant. Vous avez pour 120 francs de hasard dans votre poche. » Et vous ne devez rien à personne. La pièce a eu 150 représentations au théâtre Louvois. Le roi a fait une pension à l'auteur. Buffon l'a dit, le génie, c'est la patience. La patience est en effet ce qui, chez l'homme, ressemble le plus au procédé que la nature emploie dans ses créations. Qu'est-ce que l'art, monsieur ? C'est la nature concentrée. Les 2 jeunes gens arpentaient alors le Luxembourg. Lucien apprit bientôt le nom, devenu depuis célèbre, de l'inconnu qui s'efforçait de le consoler. Ce jeune homme était Daniel d'Arthez, aujourd'hui l'un des plus illustres écrivains de notre époque et l'un des gens rares qui, selon la belle pensée d'un poète, offre l'accord d'un beau talent et d'un beau caractère. « On ne peut pas être grand homme à bon marché, » lui dit Daniel de sa voix douce. « Le génie arrose ses œuvres de ses larmes. Le talent est une créature morale qui a, comme tous les êtres, une enfance sujette à des maladies. La société repousse les talents incomplets comme la nature emporte les créatures faibles ou mal conformées. Qui veut s'élever au-dessus des hommes doit se préparer à une lutte, ne reculer devant aucune difficulté. Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas, voilà tout. Vous avez au front le sceau du génie, dit d'Arthez à Lucien, en lui jetant un regard qui l'enveloppa. Si vous n'en avez pas au cœur la volonté, si vous n'en avez pas la patience angélique, si à quelque distance du but que vous mettent les bizarreries de la destinée, vous ne reprenez pas, comme les tortues en quelque pays qu'elles soient, le chemin de votre infini, comme elles prennent celui de leur cher océan, renoncez dès aujourd'hui. Vous vous attendez donc, vous, à des supplices, dit Lucien, à des épreuves en tout genre, à la calomnie, à la trahison, à l'injustice de mes rivaux, aux effronteries, aux ruses, à l'âpreté du commerce, répondit le jeune homme d'une voix résignée. Si votre œuvre est belle, qu'importe une première perte? Voulez-vous lire et juger la mienne? Dit Lucien. Soit, dit d'Arthez. Je demeure rue des Quatre Vents, dans une maison où l'un des hommes les plus illustres, un des plus beaux génies de notre temps, un phénomène dans la science, Desplein, le plus grand chirurgien connu, souffrit son premier martyr en se débattant avec les premières difficultés de la vie et de la gloire à Paris. Ce souvenir me donne tous les soirs la dose de courage dont j'ai besoin tous les matins. Je suis dans cette chambre où il a souvent mangé, comme Rousseau, du pain et des cerises, mais sans Thérèse. Venez dans une heure, j'y serai. Les deux poètes se quittèrent en se serrant la main avec une indicible effusion de tendresse mélancolique. Lucien alla chercher son manuscrit. Daniel d'Arthez alla mettre au Mont-de-Piété sa montre pour pouvoir acheter deux falourdes afin que son nouvel ami trouvât du feu chez lui, car il faisait froid. Lucien fut exact et vit d'abord une maison moins décente que son hôtel et qui avait une allée sombre au bout de laquelle se développait un escalier obscur. La chambre de Daniel d'Arthez, située au cinquième étage, avait deux méchantes croisées entre lesquelles était une bibliothèque en bois noirci, pleine de cartons étiquetés. Une maigre couchette en bois peint, semblable aux couchettes de collège, une table de nuit achetée d'occasion et deux fauteuils couverts en crin occupaient le fond de cette pièce, tendue d'un papier écossais, verni par la fumée et par le temps. Une longue table chargée de papier était placée entre la cheminée et l'une des croisées. En face de cette cheminée, il y avait une mauvaise commode en bois d'acajou. Un tapis de hasard couvrait entièrement le carreau. Ce luxe nécessaire évitait du chauffage. Devant la table, un vulgaire fauteuil de bureau en basane rouge, blanchi par l'usage, puis six mauvaises chaises complétaient l'ameublement. Sur la cheminée, Lucien aperçut un vieux flambeau de bouillotte à garde-vue, muni de quatre bougies. Quand Lucien demanda la raison des bougies, en reconnaissant en toute chose la symptôme d'une âpre misère, d'Arthez lui répondit qu'il lui était impossible de supporter l'odeur de la chandelle. Cette circonstance indiquait une grande délicatesse de sens, l'indice d'une exquise sensibilité. La lecture dura 7 heures. Daniel écouta religieusement, sans dire un mot ni faire une observation, une des plus rares preuves de bon goût que puissent donner les auteurs. « Eh bien, » dit Lucien à Daniel, en mettant le manuscrit sur la cheminée. « Vous êtes dans une belle et bonne voie, » répondit gravement le jeune homme. « Mais votre œuvre est à remanier. Si vous voulez ne pas être le singe de Walter Scott, il faut vous créer une manière différente. Et vous l'avez imité. Vous commencez, comme lui, par de longues conversations pour poser vos personnages. Quand ils ont causé, ou faites arriver la description et l'action. Cet antagonisme nécessaire à toute œuvre dramatique vient en dernier. Renversez-moi les termes du problème. Remplacez ces diffuses causeries, magnifiques chez Scott, mais sans couleur chez vous, par des descriptions auxquelles se prête si bien notre langue. Que, chez vous, le dialogue soit la conséquence attendue qui couronne vos préparatifs. Entrez tout d'abord dans l'action. Prenez-moi votre sujet, tantôt en travers, tantôt par la queue. Enfin, variez vos plans pour n'être jamais le même. Vous serez neuf, tout en adaptant à l'histoire de France la forme du drame dialogué de l'Écossais. Walter Scott est sans passion, il l'ignore, ou peut-être lui était-elle interdite par les mœurs hypocrites de son pays. Pour lui, la femme est le devoir incarné. À de rares exceptions près, ses héroïnes sont absolument les mêmes. Il n'a eu pour elles qu'un seul poncif, selon l'expression des peintres. Elles procèdent toutes de Clarisse Harlowe. En les ramenant toutes à une idée, il ne pouvait que tirer des exemplaires d'un même type, variés par un coloriage plus ou moins vif. La femme porte le désordre dans la société par la passion. La passion a des accidents infinis. Peignez donc les passions. Vous aurez les ressources immenses dont s'est privé ce grand génie pour être lu dans toutes les familles de la prude Angleterre. En France, vous trouverez les fautes charmantes et les mœurs brillantes du catholicisme à opposer aux sombres figures du calvinisme pendant la période la plus passionnée de notre histoire. Chaque règne authentique, à partir de Charlemagne, demandera tout au moins un ouvrage et quelquefois quatre ou cinq, comme pour Louis XIV, Henri IV, François Ier. Vous ferez ainsi une histoire de France pittoresque où vous peindrez les costumes, les meubles, les maisons, les intérieurs, la vie privée, tout en donnant l'esprit du temps, au lieu de narrer péniblement des faits connus. Vous avez un moyen d'être original en relevant les erreurs populaires qui défigurent la plupart de nos rois. Osez, dans votre première œuvre, rétablir la grande et magnifique figure de Catherine, que vous avez sacrifiée aux préjugés qui planent encore sur elle. Enfin, peignez Charles IX comme il était, et non comme l'ont fait les écrivains protestants. Au bout de 10 ans de persistance, vous aurez gloire et fortune. Il était alors 9 heures. Lucien imita l'action secrète de son futur ami en lui offrant à dîner chez Edon, où il dépensa 12 francs. Pendant ce dîner, Daniel livra le secret de ses espérances et de ses études à Lucien. D'Arthez n'admettait pas de talent hors ligne sans de profondes connaissances métaphysiques. Il procédait en ce moment au dépouillement de toutes les richesses philosophiques des temps anciens et modernes pour se les assimiler. Il voulait, comme Molière, être un profond philosophe avant de faire des comédies. Il étudiait le monde écrit et le monde vivant, la pensée et le fait. Il avait pour amis de savants naturalistes, de jeunes médecins, des écrivains politiques et des artistes, société de gens studieux, sérieux, pleins d'avenir. Il vivait d'articles consciencieux et peu payés, mis dans des dictionnaires biographiques, encyclopédiques ou de sciences naturelles. Il n'en écrivait ni plus ni moins que ce qu'il en fallait pour vivre et pouvoir suivre sa pensée. D'Arthez avait une œuvre d'imagination, entreprise uniquement pour étudier les ressources de la langue. Ce livre, encore inachevé, pris et repris par caprice, il le gardait pour les jours de grande détresse. C'était une œuvre psychologique et de haute portée, sous la forme du roman. Quoique Daniel se découvrît modestement, il parut gigantesque à Lucien. En sortant du restaurant, à 11 heures, Lucien s'était pris d'une vive amitié pour cette vertu sans emphase, pour cette nature sublime sans le savoir. Le poète ne discuta pas les conseils de Daniel, il les suivit à la lettre. Ce beau talent, déjà mûri par la pensée et par une critique solitaire, inédite, faite pour lui, non pour autrui, lui avait tout à coup poussé la porte des plus magnifiques palais de la fantaisie. Les lèvres du provincial avaient été touchées d'un charbon ardent, et la parole du travailleur parisien trouva dans le cerveau du poète d'Angoulême une terre préparée. Lucien se mit à refondre son œuvre.